France Info. Notre invitée ce matin est Caroline Dehas, militante féministe et chef d'entreprise Jean-Michel Apathy.
Bonjour Caroline Dehas.
Bonjour.
Vous avez fondé l'association Osez le Féminisme. Vous êtes l'une des voix du féminisme en France. Nous évoquons beaucoup la situation aujourd'hui de Nicolas Hulot. Le magazine L'Hebdo nous a appris en fin de semaine dernière qu'il avait été l'objet d'une plainte en 2008 pour fait de viol. Et avant même l'apparition de l'enquête, Nicolas Hulot se défendait de toute action illégale au micro de BFM TV. On écoute Nicolas Hulot.
On sort la botte secrète, l'arme infaillible, celle qui blesse, celle qui tue, celle qui crée la suspicion. On touche à mon honneur, il s'en remettra. Il touche à ma famille, à mes enfants. Et là, je vais remettre les pendules à l'heure. Et je dis stop, parce que le journal en question, demain, va évoquer deux affaires, j'allais y venir, qui n'en sont pas.
Voilà, deux affaires qui n'en sont pas. Nicolas Hulot a annoncé hier soir porter plainte contre l'Hebdo. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, Caroline Dehas?
Ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, comme toutes celles qui l'ont précédée, c'est à quel point les réactions à cette histoire disent quelque chose de notre société. Et il y a deux éléments qui m'ont particulièrement interpellée. Le premier, c'est que depuis quelques mois, on entend beaucoup de femmes qui témoignent d'affaires de viols, de violences, de harcèlement sexuel. Et donc, notre cerveau, collectivement, notre société, a enregistré qu'à peu près une femme sur deux avait subi des violences sexuelles. On a même entendu Muriel Pénicaud, ministre, témoigner de violences sexuelles qu'elle avait subies au début de sa carrière. Donc, notre cerveau accepte, je mets des guillemets, mais entend qu'il y a des femmes victimes de violences partout autour de nous. Par contre, quand il s'agit de dire qu'il y a des agresseurs partout autour de nous, là, notre cerveau il chointe, quoi. On n'arrive pas à entendre ça. On arrive à entendre qu'il y a une femme au gouvernement qui a été victime de violence. On n'arrive pas à entendre que peut-être il y a des agresseurs au gouvernement. On arrive à entendre que dans notre famille et dans notre entourage, il y a des femmes qui ont été victimes de viols, de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. On n'arrive pas à entendre que dans notre famille, dans notre entourage professionnel, à la maison de la radio, il y a aussi des agresseurs.
On protège presque par réflexe les agresseurs.
On n'arrive pas à accepter, c'est tellement douloureux en fait, c'est déjà douloureux de se déclarer victime. C'est pas très sympa en fait de se déclarer victime de violence et de reconnaître qu'on a été victime, de savoir qu'on a été victime. Se dire qu'autour de nous, parmi nos collègues, parmi nos amis, parmi peut-être les membres du gouvernement, il y a des agresseurs sexuels, c'est pas agréable du tout de se dire ça. Et mais, donc on préfère faire l'impasse.
Mais en même temps, des journaux racontent des histoires, on va revenir sur le détail de ce qui concerne Nicolas Hulot, mais des journaux racontent des histoires, la justice se saisit de faits, on sait bien qu'il y a des agresseurs. On le sait bien.
Bah, vous savez, c'est, je crois, Libération qui avait calculé, il y a 94% des plaintes pour harcèlement sexuel, 94% qui sont classées sans suite. Ça veut dire qu'il y a un décalage immense dans notre société entre la réalité des violences. On estime qu'il y a à peu près 84 000 viols ou tentatives de viol par an. Ça fait plus de 200 par jour. La réalité de ces violences et la façon dont notre société, la justice, mais aussi les commissariats, mais aussi l'école, les hôpitaux, vont prendre en charge ces violences. Vous voyez, on vient de m'envoyer un message sur Twitter, là, qui raconte une histoire dans un collège. Un collège dans lequel un élève passe en commission disciplinaire pour une fugue. Il avait fait le mur, d'accord? 8 jours d'exclusion. La semaine d'avant, 2 élèves étaient passés en commission disciplinaire pour avoir harcelé sexuellement une jeune femme dans les toilettes avec leur téléphone portable. 0 sanction.
Quel collège ?
Là, à un moment, un collège d'une ville du Sud. Je n'ai pas le nom du collège, on m'a envoyé un message sur Twitter.
C'est dommage, ce serait intéressant donc, d'aller faire un reportage dans ce collège.
Bah, je pourrais demander à la personne qui vient de m'envoyer le message de nous donner le nom du collège. Ce que je trouve très intéressant, entre guillemets, dans ces histoires, c'est que ça montre à quel point notre société a encore du mal à prendre conscience de l'ampleur des violences et des conséquences sur la société. Et puis, il y a une deuxième chose quand même qui s'est passée ces derniers jours autour de Nicolas Hulot, qui s'était déjà passée autour de Gérald Darmanin. C'est qu'on a vu des responsables du gouvernement, Marlène Schiappa dans une tribune, mais aussi Brune Poirsoin, qui travaille avec Nicolas Hulot, qui ont pris la parole pour dire « c'est un homme tellement gentil, c'est un homme tellement sympa ». Et là, je voudrais dire « attention, attention, le fait qu'on trouve un mec bien, d'accord, n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il soit potentiellement un agresseur sexuel ». Parce que c'est un peu comme 100% des gagnants ont tenté leur chance. 100% des agresseurs auront des gens dans leur entourage pour dire que c'était des mecs bien. Donc ça n'est pas un signe, ça n'est pas une preuve, en aucun cas que quelqu'un n'est pas un agresseur si on dit que c'est un mec bien.
Pour revenir à Nicolas Hulot, l'Hebdo évoque une plainte, mais on ne sait rien de plus. Au fond, on ne sait pas dans quel statut on est exactement, on est à mi-chemin entre quelque chose qui s'est produit, puisqu'il y a une plainte, mais on ne sait pas quoi, et une rumeur qui vient détruire l'honneur d'un homme, ça n'est pas rien non plus.
Alors, il y a deux éléments que je trouve intéressants, encore une fois. C'est que on sait, puisque ça a été documenté, enquêté, qu'il y a entre 95 et 98% des plaintes pour viol, entre 95 et 98% qui sont vraies, qui sont vérifiées, d'accord ? Ce que je trouve très étonnant, c'est quand une femme prend la parole ou quand quelqu'un rapporte un fait de viol, la première réaction, c'est de penser que la victime fait partie des 2 à 5% de fausses plaintes. C'est quand même bizarre, je veux dire, statistiquement, il y a quand même...
Excusez-moi, cette statistique, parce qu'elle est édifiante, en effet.
Alors, il y a eu énormément d'enquêtes, moi je vous encourage à...
Elle sort d'où
Alors, il y a un article qui a été écrit par une tweeteuse qui s'appelle Crêpe Georgette, Valérie Cégé sur Twitter, qui a fait un article où elle a fait une recension de toutes les études au niveau international, hein, dans plein de pays dans le monde, qui ont été faites. Où il y a eu des... Ben, on a enquêté sur des plaintes pour essayer d'aller vérifier la véracité. Et c'est une fourchette, hein, d'accord ? Mais on estime que c'est entre 2, 5%, ça dépend des enquêtes, ça dépend des pays. Et donc, ce que je trouve très étonnant, c'est que notre premier réflexe, quand on entend parler d'une violence, c'est de penser que la femme ment.
Non, c'est pas
alors
ça.
Qu'en fait,
c'est qu'on n'en sait rien. C'est qu'on sait pas. Voilà, on est confronté à quelque chose qui est très dérangeant.
Alors ça, c'est
Nicolas
le deuxième Hulot élément.
Est fondé à dire, mais écoutez, c'est une rumeur infâme.
Alors,
et
ça,
je ne
c'est...
la supporte pas. Ouais, il est fondé à le dire.
J'aime beaucoup ce mot rumeur parce que je trouve qu'il est très révélateur en fait. Je vais vous prendre un exemple dans une autre situation. D'accord ? Moi je considère qu'en matière de violence, on est face à des crimes de masse. À partir du moment où il y a plus de 200 viols par jour en France de femmes adultes, je considère qu'on est face à un crime de masse dans notre société. Je vais vous prendre un autre exemple de fait grave. Par exemple, le terrorisme. Si demain il y a un attentat, d'accord, en bas de la maison de la radio, qui fait, je sais pas moi, 10 morts, horrible, d'accord ? Tout le monde est sous le choc, bon. Et puis les policiers viennent vous voir en disant bon, c'est vrai, on avait entendu des rumeurs, mais on n'a pas enquêté parce qu'on s'est dit que c'était des rumeurs. Mais vous seriez les premiers à dire que c'est scandaleux. Donc en fait, moi, j'appelle pas ça des rumeurs, j'appelle ça des informations. Il y a des informations qui sont remontées aux journalistes de l'Hebdo, comme à de nombreux journalistes. Il y a des informations qui me sont remontées sur le fait que Nicolas Hulot avait un comportement avec les femmes qui n'était pas un comportement
de respect.
Qu'est-ce
qu'on vous a dit ?
D'accord ?
Qu'est-ce
moi,
qu'on vous a dit ?
J'ai eu des amis qui m'ont dit qu'elles avaient entendu des victimes parler de faits, par
des
exemple,
victimes.
De harcèlement. Oui, des victimes.
Plusieurs.
Oui, plusieurs.
Combien ?
Moi, j'ai plusieurs éléments qui me sont remontés, au moins 2 ou 3, parce que j'ai pas vu les victimes en direct, d'accord ?
Que vous avez essayé de contacter ?
Que vous non, allez j'ai pas essayé de les contacter. Moi, ce que je fais en général, soit les victimes viennent à moi, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Darmanin, par exemple, la victime m'a fait passer
on
le dossier,
parler,
voilà.
Oui.
Soit ce que je fais généralement quand j'entends ces informations, c'est que je les fais remonter à des personnes, soit à la justice, soit à des personnes qui enquêtent
c'est
de manière
que
à ce qu'elles
fait.
Puissent aller vérifier.
C'est
et c'est ce que j'ai fait.
Concernant
oui. Bien sûr, ça fait un an et demi, moi, j'ai des informations
personnes.
Qui me remontent.
D'accord.
Et donc, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je préviens la justice et je préviens surtout les journalistes qui enquêtent sur ces affaires.
Excusez-moi, parce que c'est assez grave, vous dites 2 ou 3, c'est 2 ou c'est 3?
Bah, j'en sais rien, parce que comme je les connais pas les victimes. Quand j'ai 3 histoires qui me remontent,
vous
ça
avez
se trouve que ça concerne
histoires.
La même personne. Oui.
Ah d'accord, vous ne connaissez
histoires.
Pas les noms.
Ouais.
Parce qu'on est au courant de 2 histoires.
On est au courant,
non,
en
mais
fait...
C'est d'autres. C'est d'autres. Non, mais je veux dire,
d'autres que
pensez,
les deux qui ont
attendez,
été évoqués par l'Hebdo.
Vous pensez un seul instant que vos confrères de l'Hebdo auraient sorti ce papier s'ils estimaient qu'il n'y avait pas un faisceau d'indices suffisant. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez, quand on voit Cache Investigation qui va faire des reportages que tout le monde salue, d'accord ? Ils partent d'un faisceau d'indices concordants et ils vont enquêter.
Okay.
Et c'est exactement ce qu'on fait en matière de violence.
France Info. Caroline Dehaas, militante féministe, chef d'entreprise, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy.
Ce que vous dites, Caroline Dehaas, va sûrement être entendu. Vous dites que des femmes cherchent à faire valoir leur souffrance après avoir après avoir croisé la route de Nicolas Hulot.
Non, ce que je dis, c'est qu'il y a un faisceau d'indices concordants qui nous arrive, d'accord ? Moi, ce que je fais, ce que je dis dans les entreprises, vous savez, en ce moment, je fais beaucoup de formations sur la prévention du harcèlement moral. Et ce que je dis aux managers, c'est qu'il faut qu'ils enlèvent le mot « rumeur » de leur tête. Quand un élément leur revient, ça s'appelle une information. Charge à eux d'enquêter, et donc derrière, de prendre ou non les décisions qui doivent être prises.
Et donc, il y a des gens
c'est
qui
pareil
enquêtent
sur les médias.
Il y a des gens qui enquêtent concernant Nicolas Hulot ?
Mais bien sûr, bah, Hebdo, par exemple, ils ont sorti une enquête. Il y a d'autres
Hebdo,
journalistes,
ils
sans
ont
doute,
sorti
qui
une
sont
enquête,
en train...
Après, voilà, c'est fini là, pour l'Hebdo. S'il y a d'autres éléments qui apparaissent, on verra bien. Mais
la journaliste de l'Hebdo, vous l'avez entendu vous-même, elle
mais...
a dit qu'il y avait d'autres femmes qui avaient appelé la rédaction pour témoigner. Donc, je ne pense pas que ça va s'arrêter là. Je veux dire... Vous imaginez bien que des journalistes, ils vont pas sortir une affaire à partir du moment où ils ont pas d'éléments suffisants. Enfin, vous connaissez votre métier, quoi. Vous le savez
oui,
très
ce
bien,
sont
d'ailleurs.
Ce sont des choses graves que vous dites ce matin.
Ouais.
Nous, on vous accueille ce matin et vous nous dites des choses qui posent question.
Mais c'est grave ce
donc,
qui se passe. Et c'est pas
j'ai
seulement...
envie de vous dire, dites-le ou ne le dites pas.
Mais pourquoi?
C'est compliqué. Bah, parce que vous êtes entre
vous
les deux.
Vous pensez que je dois... Non, moi, je donne... Vous me posez une question. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous dire, attendez, non, moi, je n'étais au courant de rien. Je vais pas vous mentir. Je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est que ça fait un an et demi qu'il y a des informations qui me remontent. Moi, je n'ai pas les noms des victimes. Et même si je les avais, à partir du moment où elles n'ont pas décidé, elles, de parler, ce n'est pas à moi de parler à leur place. Parce que sinon, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais si je parle à leur place ? Bah, en fait, je prends le parti de l'agresseur. Je vais leur dire, en fait, vous, les femmes victimes, vous n'êtes pas capables de parler toutes seules ? Et puis, si elles ont décidé de ne pas parler, c'est leur choix et moi, je le respecte.
La plaignante avait décidé de ne pas parler.
Oui, bah, je trouve ça grave, par exemple.
La plaignante concernant Nicolas Hulot.
Moi, je trouve ça grave qu'on sorte son nom alors qu'elle a décidé de rester anonyme.
Avant même cela, l'Hebdo raconte dans son papier, hein, nous avons été la voir, elle ne voulait pas nous parler. Et finalement, de votre point de vue, Caroline de Haas, heureusement qu'elle a parlé aux journalistes, ou pas ?
Bah, ça dépend de son point de vue à elle. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est son point de vue à elle. Est-ce qu'elle, aujourd'hui, elle considère que c'est bien d'avoir parlé ou pas ? J'en sais rien. Et par ailleurs, ce qui
se
passe dans une enquête...
Qu'est-ce que vous lui conseilleriez s'il y aura une enquête, puisque une plainte est déposée contre l'Hebdo par Nicolas Hulot ? Donc la justice, naturellement, va solliciter la plaignante.
Puisque la plainte existe, elle est consignée. Donc la justice, elle a qu'à aller voir la plainte et puis c'est comme ça que ça va se passer.
Mais il est quand même naturel d'essayer d'entendre la plaignante.
Ce que je trouve très interpellant dans toutes ces histoires de violence, qu'elles concernent des membres du gouvernement ou pas, c'est qu'on a le sentiment systématiquement qu'on a mal fait. Vous voyez, on parle, on fait mal, on parle pas, on fait mal. Donc moi, ce que j'ai décidé, en fait, mon comportement, il a changé, vous savez à quel moment ? Au moment de l'affaire DSK. Parce que moi, à l'époque, j'étais militante du Parti Socialiste. Et j'avais pas eu d'informations concernant Dominique Strauss-Kahn. Et après, je me suis dit, mais en fait...
Quand on dit tout si le monde savait, vous ne liriez pas
moi.
En
fait, moi, j'étais une militante, j'avais pas croisé la route de Dominique Strauss-Kahn et j'avais pas d'informations. Mais je me suis dit, en fait, Caroline, si tu avais mieux ouvert tes oreilles, si tu avais été plus attentive, peut-être que tu en aurais eu des informations. Parce qu'à l'époque, il y a quand même des journalistes, certaines de vos confrères, qui m'ont raconté que quand elles arrivaient dans une rédaction, le patron de la rédac les convoquait dans le bureau et leur disait les yeux dans les yeux. Il y a un homme politique avec qui il faut jamais que tu te retrouves toute seule dans une pièce, c'est Dominique Strauss-Kahn. Donc ça s'appelle une information. Je veux dire, c'est grave de dire ça à une journaliste. Ça veut bien dire qu'on sait qu'il y a un problème. Et donc ça, c'était répandu. Mais voilà. Et donc moi, ce que je me suis dit depuis, c'est que maintenant, quand j'ai une information qui me remonte, d'accord, à partir du moment où je la considère crédible, d'accord, suffisamment fiable, je la transmets à la justice ou à des personnes qui enquêtent pour que le travail puisse être fait. Moi, je suis pas une procureure, je suis pas une journaliste, je suis pas une juge. Je suis une militante féministe. Donc comme je suis une militante féministe, tous les jours sur cet petit outil, j'ai des témoignages qui me remontent. Tous les jours. Qu'est-ce que je fais ? Je fais toujours la même chose. Je conseille les victimes et je transmets les informations aux personnes qui peuvent les traiter.
Et concernant Nicolas Hulot, les deux ou trois alertes que vous avez eues, qu'est-ce que vous avez fait alors ?
Pareil. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai alerté, j'ai transmis à des personnes. Par exemple, vous avez un certain nombre de journalistes qui enquêtent sur des faits de violences sexuelles, qui sont formés pour ça, qui sont formés à accueillir la parole des victimes, et qui, c'est le cas par exemple de Mediapart, qui avait sorti l'affaire Baupin, vous voyez. Il y a un excellent papier de Lénaïque Bredoux de Mediapart qui explique très bien ce que c'est le boulot d'enquêter sur les violences sexuelles, parce que c'est un boulot particulier. Ça ne veut pas dire qu'il est plus dur ou moins dur que les autres. C'est simplement que dans l'accueil des victimes et dans la façon de traiter les informations, il y a une façon de faire son travail qui est peut-être un peu différente.
Et donc vous avez mis ces gens-là qui vous ont alerté sur Nicolas Hulot en contact
avec
des journalistes.
Non, Nicolas Hulot, j'ai pas été en contact avec les victimes. C'est Gérald Darmanin pour lequel j'ai été en contact avec la victime.
Les personnes qui vous ont alerté sur Nicolas Hulot, certaines de ses attitudes, vous les avez mises en contact avec des journalistes.
Je leur ai dit, premièrement, voilà ce que tu peux dire aux femmes victimes qui viennent te voir.
Ouais.
Ce qu'on dit toujours à une femme victime, c'est tu n'y es pour rien, c'est lui le coupable, il n'a pas le droit. D'accord ? Ça, je vous encourage à l'utiliser dans vos entourages. La deuxième chose, c'est que je donne le numéro de téléphone du CFCV, Collectif Féministe contre le Viol. Je le redonne ce matin, 0800 05 95 95. Vous aurez au bout du fil des écoutantes formées qui peuvent vous accompagner. La troisième chose que je fais, c'est que je donne des numéros de téléphone d'avocates spécialisées dans la prise en charge des femmes victimes. C'est ce que j'ai fait par exemple pour la victime de Gérald Darmanin. Et la quatrième chose que je fais, c'est que je propose évidemment aux victimes qui le souhaitent qu'il puisse y avoir des enquêtes qui soient menées, soit d'un point de vue judiciaire, soit d'un point de vue journalistique.
Et donc c'est ce que vous avez fait pour les deux ou trois cas.
Juste un élément sur la justice quand même.
C'est ce que vous avez fait pour les deux ou trois cas que vous avez mentionnés.
Oui, bien sûr. En tout cas, j'ai pas eu les victimes en direct, mais les personnes qui m'ont parlé de victimes, je leur ai dit ça. Ce que je dis systématiquement. Et je vois pas pourquoi j'aurais un comportement différent quand il s'agit d'un membre du gouvernement, quand il s'agit d'un patron d'hôpital, puisque j'ai eu le cas encore, ou quand il s'agit, par exemple, je sais pas moi, d'un prof dans une école.
Marlène Schiappa a signé une tribune dimanche qui a eu un certain écho, un certain retentissement, qui était intitulé ainsi « L'article sur Nicolas Hulot bafoue la parole des femmes ». Vous avez lu cette tribune, sans doute ?
J'ai lu cette tribune. Moi, la phrase qui m'a le plus interpellée, c'est la phrase dans laquelle elle dit « Il faut que la justice fasse son travail » ou « C'est dans la justice que se passe... »
Oui, exact.
« C'est dans la justice, c'est la justice qui doit faire son travail. » Et il y a un moment où moi, je ne sais plus quoi faire, en fait. Moi, je suis issue d'une famille bourgeoise. On m'a expliqué qu'il fallait respecter les institutions de notre pays, que la justice devait faire son travail. La justice, elle ne fait pas son travail en France. Les commissariats, les gendarmeries, ils ne font pas leur travail en France. Les hôpitaux, ils ne font pas leur travail en France en matière de violences sexistes et sexuelles. Vous avez plus de 200 viols par jour en France. 2% des violeurs seront condamnés. 2%. Enfin, je veux dire, 98% des viols, ce sont des crimes, ne seront jamais condamnés en France. Donc, il y a un moment, quand est-ce qu'on va peut-être dire que l'État est complice, en fait, de cette situation? À partir du moment où la justice ne fait pas correctement son travail, où les hôpitaux n'accueillent pas correctement les femmes victimes. Donc, vous allez me dire, oui, bien sûr, il y a des magistrates et des magistrats qui font leur travail. Il y a des gendarmes qui font leur travail. Vous savez ce qu'on m'a raconté la semaine dernière? Je vous prends un dernier exemple sur les gendarmeries, les commissariats. Il y a une femme qui est venue porter plainte pour viol sur mineur. D'accord? Elle avait 17 ans. Premier commissariat, on lui dit « Vous étiez bourré, c'était une soirée, il ne faut pas exagérer. » Deuxième commissariat, le gendarme prend, le policier prend sa déposition et l'autre sort son arme de service et caresse le canon, comme ça. Troisième commissariat, on lui dit « Vous vous rendez compte, vous allez briser la vie de ce jeune homme. » Je veux dire, elle a 17 ans, elle est mineure, elle est violée. Trois commissariats, on lui envoie le message qu'en fait, elle l'a bien cherché, que c'est sa faute, elle a bien aimé ça. C'est ça la France aujourd'hui, aussi. C'est aussi des policiers, des gendarmes qui font bien leur travail. Mais c'était aussi ça.
C'était les commissariats dans Calleville ?
C'était à Paris.
À Paris.
Et c'est pas possible.
Ce serait intéressant de confronter le ministre de l'Intérieur à ces trois commissariats, à ces attitudes.
Il n'y en a pas que trois, Jean-Michel Lapati. Il y en a des dizaines.
Ce cas-là.
Mais c'est pas un problème individuel, c'est un problème de masse. On est dans une mécompréhension, méconnaissance de l'ampleur des violences. Et notre pays, moi je considère que la France, l'État français, est complice de fait de ces crimes de masse que sont les viols. Il est complice parce qu'on sait exactement comment il faudrait faire pour les arrêter. Et on ne le fait pas. On ne met pas les moyens sur la table.
France Info. Caroline Dehaas, militante féministe et chef d'entreprise, est l'invitée de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy.
Vous êtes exprimée clairement à ce micro depuis 8h30. Caroline Dehaas, vous avez dit des choses importantes qui peut-être feront l'objet de débats ou de réponses ultérieures. Vous êtes aussi l'objet de critiques.
Voilà. C'est étrange pour une militante féministe.
Une avocate, Florence Ruau, vous qualifie de néo-féministe agressive. Vous ne seriez pas respectueuse de la justice, c'est ce qu'elle explique sur un blog qui s'appelle « Vue du droit ». Et puis on a aussi repéré un potentiel conflit d'intérêts dont vous accusez certaines personnes. Charles Consigny est un avocat et il note que vous dispensez des formations au travers d'une société, la vôtre, qui s'appelle Aglaé, auprès des collectivités territoriales. Et il vous accuse, on va l'entendre, c'était dans les grandes gueules d'RMC, de mettre la pression ou le projecteur sur certains problèmes pour ensuite précisément décrocher des marchés dans des collectivités territoriales. On écoute l'accusation.
Je pense que certaines personnes comme Caroline Dehaas se servent de ce débat pour passer à la télé, vendre des trucs. Il faut savoir que Caroline Dehaas, c'est aussi son business. Elle a une entreprise qui vend des formations aux collectivités publiques sur l'égalité homme-femme. Donc évidemment que ce genre de débat porte ses affaires.
Voilà, votre société, c'est Egae, un business ?
Un business, oui. C'est bizarre parce que je pense que si j'étais fonctionnaire, on m'accuserait d'être fonctionnaire. Si je travaillais dans une grande entreprise, on m'accuserait d'utiliser les fonds de cette grande entreprise pour faire parler de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous savez, souvent dans les formations qu'on dispense ou dans les réunions féministes, il y a toujours une jeune militante féministe qui va prendre la parole en disant « Moi, j'en ai marre qu'on passe notre temps à nous expliquer qu'on est agressive, comme l'a fait la dame juste avant, ou nous expliquer qu'on fait tout ça pour passer à la télé. » Et ce que je leur dis, c'est, et elle me dit, on aimerait bien trouver un moyen que ça n'arrive plus. Et je leur dis, mais je suis désolée, j'ai pas la solution. Vous portez un projet radical de transformation de la société. Donc des gens comme Charles Consigny, ça les dérange ce projet-là. Parce qu'ils voient bien que ça va changer radicalement la façon dont on se comporte les uns avec les autres, les rapports de force, les rapports sociaux. Et quand vous portez ce projet radical de transformation de la société, par définition, vous dérangez. Vous faites l'objet de critiques en permanence, d'accord ?
Et puis, sur les questions. Il n'y a pas de conflit d'intérêt dans votre cas ?
Il y aurait un conflit d'intérêts si je demandais au gouvernement de mettre en place des formations financées par le privé, par exemple. D'accord ? C'est pas ce que je fais. Moi, ce que je demande au gouvernement, c'est de former l'ensemble des magistrates, l'ensemble des policiers et des gendarmes. Vous savez ce que ça veut dire si on fait ça ? Ça veut dire qu'ils vont internaliser les formations. Ça veut dire la fin de ma boîte. Et en général, d'ailleurs, les collègues, elles me disent « Caro, mollo là, parce que en fait, avec ce que tu demandes, le plan d'urgence que tu exiges du gouvernement, en fait, ça veut dire que nous, le travail que nous faisons, qui est en fait un travail de service public, nous pallions à l'inaction du gouvernement sur ces questions-là. Et nous tentons avec nos petits moyens, moi j'ai une boîte, on est 7 personnes, vous voyez ? Donc on tente avec nos petits moyens de pallier à l'inaction du gouvernement sur la, en matière de formation des professionnels. Mais le jour où le gouvernement, il fait ce que les féministes demandent, que bon nombre de féministes demandent, à savoir former l'ensemble des professionnels, mais moi je mets la clé sous la porte. Donc, vous voyez, s'il y a un conflit d'intérêts, c'est plutôt dans l'autre sens, hein, c'est un conflit de désintérêt. Et puis à toutes celles et ceux, c'était le cas je crois d'un article dans Contrepoint qui disait que ma boîte est florissante, je les encourage à aller voir la situation de mon entreprise et puis de s'intéresser de près aux situations des PME et des TPE. Parce que le problème principal des PME, dont la mienne, c'est les problèmes de trésorerie qui font par exemple que moi ce mois-ci, Jean-Michel Apathy, je ne me paye pas de salaire en tant que patronne. Je ne me paye pas de salaire parce qu'on n'a pas de trésorerie. Donc ouais, c'est un peu douloureux en fait quand vous ne vous payez pas de salaire à la fin du mois d'entendre des gens vous expliquer que vous faites du business sur le dos de l'égalité femmes-hommes.
Je voulais que nous terminions cette interview en évoquant le procès qui s'ouvrira tout à l'heure à Pontoise. Un homme de 29 ans sera jugé. Il a une relation sexuelle avec une fillette de 11 ans. Il sera jugé pour atteinte sexuelle et pas pour viol, puisque aucun des éléments constitutifs du viol, la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, ne serait présente dans cette relation. On écoute l'avocat de l'inculpé.
Cette fille, tout le monde est unanime pour dire que d'apparence physique, elle fait plus de 15 ans. Deuxièmement, elle a provoqué l'erreur dans l'esprit de mon client en disant qu'elle avait 18 ans. Sur tous les PV, il est bien indiqué à chaque fois quand on lui pose la question. Mais est-ce que tu étais bien consentante ? Oui, j'étais consentante. Est-ce que lui pensait que tu étais consentante ? Oui, il pensait que j'étais consentante.
Comment vous réagissez à cette affaire ?
Je sais pas, j'ai envie de pleurer. Elle avait 11 ans. Elle a été violée par un mec de 22 ans qu'elle ne connaissait 29. Pas. 29. Enfin, je veux dire, mais vous vous rendez compte du truc ? C'est-à-dire que dans quel monde on vit pour considérer qu'une petite fille de 11 ans peut coucher avec un homme de 29 ans qu'elle ne connaît pas et que ce ne soit pas un viol ? C'est bien le signe pour moi, encore un des nombreux signes, sur le fait que notre pays a un sérieux problème avec la prise en compte des violences sexistes et sexuelles. Et le seul moyen de s'en sortir, vous savez ce que c'est de faire deux choses principales. La première chose, c'est de former tous les élèves à l'école, exactement comme on a formé les élèves sur le code de la route. On a été capable de mettre en place un brevet de la sécurité routière dans toutes les écoles de France. Ça demande des moyens, ça demande une volonté politique. Mettons en place un brevet de la sécurité, mettons en place un brevet contre les violences sexuelles. Et puis la deuxième chose qu'il faut faire, c'est former tous les professionnels. Et ce n'est pas fait.
Et le projet de loi sur le consentement, donc, qui n'est pas réputé acquis avant 15 ans, c'est un projet de loi qui va être présenté au mois de mars.
Moi, je considère que c'est bien de mettre une limite pour donner une indication à la police. Je pense qu'il ne faut pas que cette limite elle soit irréfragable, c'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on puisse aussi permettre que
ça existe. Et cet âge de 15 ans, ça vous paraît
Oui, en termes d'indication, ça me paraît bien. Après, ce qui se passe, c'est qu'il faut... Évidemment, je veux dire, il y a des jeunes femmes de 14 ans qui couchent avec des mecs de 18 ans et qui s'éclatent, et tant mieux pour elles. Ce qui compte, c'est d'avoir une limite qui permet de donner une indication aux magistrates et aux magistrats pour que ce genre d'affaires ne se reproduise pas.
Merci beaucoup, Caroline Dehaas. Bonne journée à vous.